Terrorist networks. Terrorist states.
Non, 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 nous ne sommes pas des terroristes. Gilles et Pascal, ce soir avec vous, comme chaque semaine, pour les nouvelles du logiciel libre. Et c'est Bruno Bertrand, pardon, qui réalise cette émission. Bonsoir, Pascal.
Bonsoir, Gilles. Bonsoir à tous et à toutes.
Et à toutes les auditeurtrices de Divergence FM, de Radio Escapade ou de où que vous soyez, et que c'est par Internet que vous nous écoutez. Une émission dans laquelle... une émission en léger différé ce soir pour la revue de presse de l'April, la traditionnelle revue de presse de l'April avec Manu et Luc, si je ne me trompe pas.
Emmanuel Charpentier et Luc Fievier de l'April, effectivement, qui nous font donc cette revue de presse hebdomadaire.
Un petit bilan des formations logiciels libres après le bac, des nouveautés logicielles que Pascal nous détaillera. Et puis, on sera avec Raphaël Jacquot au téléphone. Il était le week-end dernier, c'est bien ça, ou celui d'avant, au FOSDEM?
Non, c'était le 5 et 6 février à Bruxelles. Ah.
Celui d'avant, donc, à Bruxelles, qui est l'autre pays des logiciels libres.
Mais tout de suite, peut-être directement les nouvelles du front.
Les nouvelles du front.
Avec le bruit des vrais pingouins. Revue de presse de l'April, l'association pour la promotion du logiciel libre. Donc Emmanuel Charpentier et Luc Févier nous font toujours cette faveur de faire la revue de presse qu'ils font sur le site april.org. Ils nous la font en audio, ils l'enregistrent et ils nous la transmettent à des heures très indues d'ailleurs. Donc tout de suite, revue de presse.
Voilà, et puis ils vont vous faire un sommaire un peu dans le désordre. C'est pour ça que je n'avais pas très bien compris au début. Dans l'ordre, ce sera Éric Besson sur ce qu'il a dit par rapport à France Numérique 2012. Ce sera le procès Imioul, la lettre ouverte de l'April aux parlementaires européens, Al Jazeera qui diffuse des images sous contenu Creative Commons, le bouquin Against Intellectual Monopoly de Michel Baldwin et David K. Levin, et puis un pré-rapport parlementaire qui prône l'inscription de la neutralité du net dans la loi, des réseaux sociaux d'entreprise, tout ça sur 01net.com, Le Parisien, IT Manager, Numérama, Contrepoint, Le Monde et IT Channel.
Revue de presse de l'April. 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 Semaine 5 de l'année 2011. Bonjour Manu.
Salut Luc.
Donc aujourd'hui au sommaire, vive la collaboration. Et oui, deux députés qui neutralisent mieux qu'un taser. Les brevets grillés, la révolution dans la révolution, la nouvelle guerre européenne des brevets, la mule chargée et blabla. Alors pourquoi blabla?
Oui, t'es méchant, hein. C'est un article 01net, Besson, le logiciel libre aux propriétaires, chacun doit avoir le choix. Article de Christophe Guillemin qui revient sur une interview qu'il a fait auprès du ministre ou du secrétaire d'État, je ne sais plus d'ailleurs quel est son rôle, mais en tout cas où il parle justement de comparer, de donner les choix aux utilisateurs et il reparle de ce que la vente liée et ce qu'ils vont faire au niveau de la vente liée au niveau du gouvernement ou ne pas faire, et puis du plan numérique 2012, un truc magnifique que tu adores.
Ah non mais c'est intéressant, il y a plein de bonnes choses dans le plan numérique France numérique 2012, notamment il y a le fait de mettre en avant le logiciel libre, c'est un des axes du plan France numérique 2012, donc c'est bien. Et ça parle de la vente liée. Alors, mais il y a un mais, forcément. Alors, sur la question de la vente liée, c'est encore des déclarations de principe. Il y en a eu plein depuis 10 ans et ça n'a jamais bougé d'un centimètre. Donc, très bien. On est super content que Éric Besson revienne sur le sujet. Mais des actes, ce serait vachement bien.
Moi, perso, je serais au moins enchanté d'une chose, c'est s'il arrivait à mettre en acte le fait qu'on voit le prix des licences qui sont achetées avec les ordinateurs. Je reviens de grands magasins genre Surcouf, et c'est une horreur de voir qu'il n'y a même pas cette indication-là. Ils sont tous sous Windows, hein. Le choix, il n'y en a pas.
Ah, c'est le minimum vital, mais on pourrait espérer quand même nettement plus. Et comme par exemple, ne pas payer si on ne veut pas, si on veut pas système d'exploitation. Hein. Il y a déjà plein de fonctions avec des options où on peut choisir tel ou tel logiciel, donc les constructeurs savent très bien faire. Donc, et second point assez amusant, c'est que le site France Numérique 2012, il est mort, ils se sont fait piquer leur nom de domaine. Donc c'est pour ça qu'on se pose des tas de questions sur savoir si derrière il y a vraiment de la volonté. Ils voient jusqu'en 2012, mais même pas jusqu'à réserver le nom de domaine jusque-là, donc c'est un petit peu angoissant.
Bon, alors, article suivant. La mule chargée, qu'est-ce que c'est que cette mule qu'on charge, Luc ?
C'est un article de You, téléchargement illégal, le créateur d'Imule devant la justice, par Émilie. Donc bah, c'est un type qui a développé Imule, donc le logiciel de peer-to-peer bien connu, surnommé la mule par tout le monde. Et bah, ce gars a un procès, il a été ajourné deux fois, ça a été reporté plusieurs fois, et ben bah, là il va a priori passer sur le grill au tribunal, il y a pas mal de monde contre lui. Donc on y voit le procès du peer-to-peer, donc c'est un petit peu tardif, parce que peer-to-peer est vraiment sur le déclin maintenant.
Oui, mais c'est un peu vache tout ça. Enfin, moi, j'ai mal au cœur pour lui, c'est un gentil qui partageait plein de choses et qui faisait du bien à tout le monde, non ?
Bah, en fait, il s'avère qu'il aurait, avec la publicité sur son site, qui évidemment drainait énormément de monde, fait 400 000 euros de bénéfices, qu'il aurait été placé sur des comptes à l'étranger, dans des pays un peu douches.
Comment ça, il a fait ça ? Il était un peu naïf ? Il était un peu innocent ? Il a mis ça pour gérer les serveurs ?
Bah, à 400 000 euros, ça fait des beaux serveurs. Non, enfin bon, il a mis l'argent, semble-t-il, à l'abri. Donc évidemment, dans un procès, quand on a partagé, fait des données de ce type-là, mais qu'on n'a pas fait de bénéfice, etc., bon, on risque rien de très très grave, mais à partir du moment où il y a du bénéfice, c'est vraiment du piratage aggravé, et bon, j'aimerais pas être à sa place.
Ouais, en plus j'imagine que là ça va être l'occasion pour les majors de lui en mettre plein la tête, c'est un bon exemple, il est français sur le territoire français, alors que d'autres qui sont à l'étranger sont intouchables.
Voilà, mais sur cette histoire d'argent, ce qui fait un petit peu mal au cœur, bon, hormis cette affaire, bon, 400 000 euros c'est pas mal d'argent, mais avec tout ce qui a été fait, DAVSIL, Adopi, etc., on a bien cassé le peer-to-peer et quand même mis la pression à droite à gauche, et donc il y a des systèmes alternatifs qui sont développés, donc il y a tout ce qui est méga-upload et autres gros serveurs de partage de fichiers et, qui font tout pour que les gens s'abonnent, donc ils génèrent de l'argent. Il y a les VPN qui sont des trucs à l'étranger dans des pays un peu louches avec des capitaux, on ne sait pas trop d'où ils viennent, qui vendent du service à 5 euros par mois pour pouvoir télécharger de façon anonyme. Et ça, c'est encore pas mal d'argent qui est généré et qui va pas dans les poches des ayants droit.
Alors, on m'avait dit que MakeUpload était un super site avec des bisounours derrière, encore une fois, qui t'offrait du contenu gratuitement et légalement. Qu'est-ce que t'en penses ?
Bah, c'est pas légal. Par contre, ça tombe pas encore sous la coupe de Adopi, même s'ils prétendent un peu l'inverse. Enfin bref, voilà. Donc c'est du flou juridique et bon, comme ça avait été prévu. Voilà, on allait, comment dire, la loi allait être dépassée avant d'être votée, et voilà, c'est la parfaite illustration. Alors, la nouvelle guerre des brevets, nouvelle guerre européenne des brevets, donc un article de ITRManager.com, l'April publie une lettre ouverte aux parlementaires européens par la rédaction.
Oui, un article qui reprend et qui s'inquiète de nouvelles discussions qu'il y a sur les brevets européens. Et sur les brevets européens au niveau de l'OEB, c'est l'Office européen des brevets qui est en train d'essayer d'unifier entre tous les pays les législations.
Alors en fait, c'est la Commission européenne qui veut passer une loi pour que l'OEB récupère tout ça. Et le problème là-dedans, c'est que d'une part, la Cour de justice de l'Union européenne semble pas du tout favorable à cette loi et pense qu'elle n'est pas légale. Enfin, en tout cas, contre les lois européennes, elle doit rendre une décision. Mais la Commission veut voter l'octroi de ses droits à l'OEB avant que la Cour de justice rende sa décision.
Oui, il n'y a rien de tel qu'un fait accompli. Hein. Une fois qu'on l'a bien mis en place, on ne peut plus vraiment l'enlever.
Voilà, et bon, on sait que l'OEB, alors que les brevets logiciels ne sont pas reconnus en Europe, en a octroyé un certain nombre, et donc ils sont plutôt favorables aux brevets logiciels. Donc, en gros, ils sont assez peu contrôlés. Hein. C'est un office, c'est un truc, c'est pas vraiment du contrôle démocratique. Donc on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire avec.
Oui, j'ai cru comprendre qu'historiquement, il y avait des dizaines de milliers de brevets logiciels qui avaient été déposés par les géants de type Oracle et Microsoft, qui servent à rien, si ce n'est que c'est une sorte de munitions qui sont stockées en vue d'un usage futur pour déclencher une guerre nucléaire entre big entreprises, ce qui se passe un peu aux États-Unis, et ils le regrettent.
Voilà, donc cette affaire, elle touche pas que les brevets logiciels, hein, c'est tous les brevets, mais en tout cas, ça risque de nous impacter très fort. Il y avait déjà eu des guerres très 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 dures sur les brevets logiciels il y a quelques années, qu'on avait gagné, et là, c'est reparti. Donc la révolution dans la révolution, donc pourquoi ?
Alors c'est article Numérama. Al Jazeera diffuse ses images sous licence Creative Commons de Julien L. Donc une chose des plus intéressantes, en période de révolution dans le monde arabe, et en Égypte essentiellement, Al Jazeera, bon, comme on sait c'est une chaîne de télévision, ils ont peut-être des journaux aussi, et ils sont en train de, ils ont vraiment changé la donne, ils diffusent des contenus sous une licence ouverte.
Alors c'est une chaîne d'information, hein, et vraiment d'information. Donc ils ont deux licences, une pour la vidéo qui est la Creative Commons by, ça veut dire qu'on doit citer la paternité, mais qu'on a le droit de modifier, de redistribuer, et y compris avec un usage commercial. Seconde licence un peu plus restrictive, c'est de la by ND pour les photos, donc pas le droit de modifier, mais par contre toujours ce droit de redistribuer de façon, façon commerciale. Et conséquence de ce truc-là, on va dire, ils sont fous, ils donnent leur truc gratos et tout, leur audience a explosé, ils sont pas si loin que ça derrière CNN.
Oui, moi je trouve ça extraordinaire, et en plus, quelque part, ils ont pris fait et lieu pour les gens qui se révoltent en Égypte, et là, le fait de diffuser ces contenus de manière aussi ouverte, eh bien c'est génial. Ils ont fait un choix en plus de ne pas le mettre dans le domaine public, comme ça, ça leur permet de garder la paternité, de garder un certain contrôle, d'éventuellement de pouvoir redistribuer les contenus concernés sous des licences commerciales si certaines des entreprises qui veulent pouvoir la prendre. Moi j'avoue, j'applaudis, je trouve ça génial, j'espère que ça va marcher. Je ne sais pas s'il y a des arrière-pensées derrière de diffusion de ces révolutions, mais en tout cas, bravo.
Ouais, c'est un pas très 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 osé, très important, et c'est pour ça qu'on parle de révolution. Article, donc brevet grillé, donc c'est un article de contrepoint Against Intellectual Monopoly par le Minarchiste. Donc c'est un article sur un bouquin écrit par des universitaires britanniques de l'université de Cambridge, donc Michel Boldrin et David K. Levin, qui s'appelle Against Intellectual Monopoly, qui est un livre qui parle notamment des brevets. Et donc l'article est intéressant, il fait un petit résumé évidemment du livre, mais explique comment les brevets sont négatifs et ont un effet négatif sur l'innovation.
Oui, un livre qui a l'air quand même d'être un sacré pavé. Il y a bien plus de 300 pages qui sont concernées sur tout l'historique des brevets et sur leur impact.
C'est un vrai livre d'universitaire, on ne sait pas.
Oui, avec 20 pages de référence, 10 pages de footnotes, mais c'est pas très grave, parce que le propos est vraiment des plus intéressants, et donne des exemples dans l'article. Donc l'article en lui-même a déjà une vie qui est vraiment pertinente, et qui explique ne serait-ce que le moteur de Watts, qui a été breveté au tout début, et qui a bloqué la machine à vapeur, qui a bloqué pendant 20 ans les innovations qui auraient pu être faites dessus, et de la même manière pour les avions, les frères Wright qui ont breveté, alors qu'en fait, il y avait un autre petit inventeur à côté, Curtis, qui avait fait des choses beaucoup plus innovantes sur certains points et qui ont bloqué l'innovation sur l'aviation aux États-Unis. Donc des exemples les plus intéressants.
Alors ce qu'il faut savoir historiquement sur les brevets, c'est que le brevet initialement, ça se faisait dans un contexte historique où on avait encore l'héritage des corporations et des secrets de fabrication. Et donc il y avait une sorte de contrat social où avec le brevet on garantissait à l'inventeur une période dans laquelle il pouvait faire de l'argent, etc., contre le fait qu'il publie le secret de fabrication de telle sorte que à terme, eh bien, tout le monde puisse en profiter. Et aujourd'hui, on a un dévoiement total de ce principe, où les brevets sont rédigés de façon la plus illisible possible, et surtout pour bloquer tout ce qui bouge, et on va les renouveler, etc., et ça va être pour complètement verrouiller le truc. Donc on a complètement inversé et bouffé le principe.
Chose intéressante, mais ça c'est vraiment la petite note, le site concerné Contrepoint est un site libéral, donc il y a de tout, on peut manger de tout dans le logiciel libre, et la petite note qui est derrière, c'est quand les pauvres gens assurent les rentes monopolistiques de grosses corporations, c'est ceux qui possèdent des brevets, et qui les utilisent pour vivre sur le dos des utilisateurs et des consommateurs.
Alors, donc, deux députés au féminin qui neutralisent mieux qu'un taser. Donc, c'est un article du Monde.fr. Donc, un pré-rapport parlementaire prône l'inscription de la neutralité d'Internet dans la loi par la rédaction.
Donc là, c'est tout ce qui est neutralité du net, le fait qu'on ait des tuyaux et que les gens qui possèdent les tuyaux ne contrôlent pas ce qui passe dans ces tuyaux. Parce que c'est ce qu'ils aimeraient faire, hein, en tout cas certains. Ils aimeraient pouvoir faire payer en fonction des contenus qui sont diffusés, ou en fonction de qui les diffuse ou de qui les reçoit. Éventuellement, si vous transmettez des contenus intéressants pour eux, ils vont les accélérer. Si vous transmettez des contenus qui sont inintéressants, ils vont les faire passer par ailleurs. C'est pas très sympa.
Voilà, donc on a deux députés qui ont travaillé sur le sujet, donc UMP et PS, la main dans la main. Et bon, ce qui est intéressant, c'est que bon, c'est qu'un pré-rapport, on attend avec impatience la suite, mais ça va contre le filtrage d'Internet qui a été décidé dans l'OPSI 2 très récemment, et ça va aussi contre la volonté de certains providers qui, en fait, on voit d'un assez bon oeil cette histoire de favoriser certains paquets plus que d'autres.
Bah oui, il n'y a rien de tel, on peut faire payer différemment et on peut faire payer beaucoup plus cher pour que certains contenus passent. Eux, ça les enchanterait de vous télécharger un film, et bah, il n'y a pas de problème, on va vous rajouter 2 euros par-ci, 2 euros par-là. Vous voulez télécharger quelque chose de gratuit, bah, il n'y a pas de problème, mais il faudra attendre une journée avant que ça arrive. ça leur ferait plaisir, mais la comparaison qu'on fait toujours avec ça, c'est le facteur. Est-ce que le facteur se donne le droit de regarder ce qu'il y a dans les paquets pour pouvoir les transmettre d'une façon ou d'une autre? Non, et même, c'est pire que ça, c'est illégal. Donc la neutralité du net, ce serait faire la même chose pour les fournisseurs d'accès. On espère, mais est-ce qu'on aura?
Alors dernier article, vive la collaboration, donc rien à voir avec le maréchal Pétain, donc article...
T'es vraiment de mauvaise foi.
IT Channel, les réseaux sociaux d'entreprise vers une vraie transformation de la collaboration interne par la rédaction. Donc un article qui parle des réseaux sociaux en entreprise, donc réseau social et entreprise, il y a quelque chose d'un petit peu antinomique selon toi?
Oui, on en a déjà parlé en privé, mais c'est vrai que les entreprises c'est un modèle de dictature, rien de mal à cela, mais c'est une hiérarchie avec un despote éclairé, et bien dedans on n'a pas de choix de sortir de cette hiérarchie, c'est le mécanisme qui fonctionne aujourd'hui, et en soi c'est pas vraiment très grave. Ce qui me paraît intéressant là-dedans, c'est que les réseaux sociaux, ça permet de faire quelque chose de plus transversal et de rompre le pur rapport entre un employeur et ses employés, un chef et ses subordonnés, mais au contraire d'aller discuter de manière transversale et de partager et de sortir de ce carcan. Bon, ça me paraît de plus simple, qu'est-ce que t'en penses?
Effectivement, oui, ça peut faire évoluer pas mal les mentalités, mais qui ont déjà pas mal évolué, parce que le travail collaboratif et ce genre de choses, on en parle depuis au moins 6-7 ans, et effectivement, c'est dur à faire rentrer dans certaines boîtes, hein, parce que ça remet en cause des rapports de pouvoir, il y en a d'autres qui se mettront à la place, mais ça peut faire bouger les choses. Cet article met en avant trois points essentiels. Donc le premier, c'est que d'un point de vue des systèmes, les outils collaboratifs, enfin les réseaux sociaux deviennent vraiment un système à part entière, donc rajoutent une couche par rapport aux autres. Deuxième point, ils constatent que dans les offres, entre les petites boîtes qui proposent des services, elles vont proposer des services assez radicaux qui vont vraiment changer les organisations traditionnelles des entreprises, alors que les grosses boîtes vont proposer quelque chose d'un peu plus, un peu plus souple, qui va être plus raisonnable. Et dernier point, ils disent qu'en gros ça démarre cette année, et pour la raison que tu as évoquée, ça va faire des remous, et qu'il va falloir assurer derrière.
Moi, je rajouterais juste que tout ça, c'est des réalisations de choses qui avaient déjà été prédites ou en tout cas encouragées dans les années 60 et 70, où beaucoup de sociologues, d'ethnologues et de gens qui réfléchissent aux structures d'organisation et de travail avaient préconisé justement de sortir des pures relations hiérarchiques et de créer un peu d'inventivité là-dessus. Bon, ça fait plaisir.
Bah, Manu, merci. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine et à la semaine prochaine, Divergence. Revue de presse de la Prilage. 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 Revue de presse de la Prilage.
Revue de presse de la Prilage. Revue de presse de la Prilage. Revue de presse de la Prilage. Revue de presse de la Prilage. Revue de presse de la Prilage. Revue de presse de la Prilage. Et on les remercie bien pour cette revue de presse fort édifiante et qui prouve que, comme le disait le poète, l'avenir, le troisième millénaire sera féminin quand on pense à nos chères députettes. On ne dit pas députettes, n'importe quoi.
Madame Blatt, députée, revue de presse que l'on trouve sur april.org et puis sur dogmazic.net aussi.
Les trois prochaines minutes et 57 secondes, ce seront celles de No Need, du groupe de l'artiste K-Pad. C'est sous licence Creative Commons by NCND 2.0, une autoproduction qu'on retrouve bien évidemment sur dogmazic.net. C'était donc CAPAD, j'espère que ça vous a plu. Et à présent, ben, on fait un petit tour d'horizon sur les formations diplômantes en logiciel libre en 2011, Pascal.
Et oui, on revient à nos fondamentaux cette semaine avec les formations effectivement diplômantes en logiciel libre de cette année 2011. Donc après le bilan de 2008 des formations diplômantes en logiciel libre dans le système universitaire français, voici le bilan à la veille des choix cruciaux des étudiants pour leur avenir professionnel. Ce bilan liste les formations dont le cursus d'une ou plusieurs années est entièrement consacré au logiciel libre. Il ne faut pas oublier que dans la plupart des formations universitaires et ou de cycles d'ingénieurs, le logiciel libre est présent, soit sous forme d'un ou plusieurs modules durant le cursus ou plusieurs ou plus modestement, mais toutes les initiatives sont à saluer par l'utilisation d'outils du monde du logiciel libre. En 2008, 4 licences professionnelles et un seul master étaient accessibles sans compter.
Qu'en est-il aujourd'hui après 3 années? Aujourd'hui, 3 licences professionnelles sont proposées en France, Nancy, Angers et Lyon. Chacune d'elles développe une spécialisation, administration système pour Nancy, système base de données et réseau pour Angers, communication et logiciel libre pour Lyon.
Les 2 premières licences professionnelles sont clairement destinées à des étudiants informaticiens, alors que la 3e permet à tout étudiant d'être formé à la question du logiciel libre et de répondre à la problématique du changement. Comme toute licence professionnelle, elles sont accessibles avec un diplôme Bac plus 2, DUT, BTS, 2e année de licence, et l'entrée est possible après une phase de candidature.
Si vous disposez d'un Bac plus 3 ou Bac plus 4, ou d'une équivalence ou d'une VAE, VAP, le Master I2L, ingénierie du logiciel libre, à Calais, est aujourd'hui la seule possibilité de formation diplômante à Bac plus 5. Le Master I2L s'articule autour de 5 axes, système, réseau et sécurité, développement d'applications web, environnement de développement libre et gestion de projet, migration, base de données, annuaire, etc., environnement du libre, droit, licence, management et marketing du libre.
En conclusion, la licence professionnelle de l'IUT de Sénart-Fontainebleau a disparu et aucun autre diplôme n'est apparu. On peut néanmoins se féliciter de la percée des logiciels libres comme outils dans un grand nombre de formations, mais doit-on s'inquiéter de la diminution de l'offre spécifique? L'utilisation de certains outils est une chose, mais comprendre le modèle du logiciel libre, les aspects économiques, légaux, l'organisation, etc. est une autre chose.
Et voilà, raison de plus pour aller étudier, pour s'en faire une idée précise. Avant de parler sortie logicielle, peut-être une autre petite pause musicale.
Oui, une autre pause musicale avec le titre Underground Massive par Trop Pendant BAT en licence Creative Commons by NC, by Paternité, NC non commercial 2.5, en autoproduction, extrait de l'album Parle à mon ventre, et on retrouve ça sur dogmasic.net.
Par l'appel d'un pic régulier, nous étions réunis près d'un bled paumé. Arrivé progressif à grappe de 10, les rangs grossissaient la nuit. Court, une meute de clep s'aboie sur le côté. De feu, d'un cracheur titubant, flashs infernaux qui rythment ma transe. Les infrabasses grondent, rebondissent contre les mâchoires crispées qui peinent à se détendre. Le rythme s'insinue, le rythme s'étend. Le beat machinal guide mes bras, mes jambes. Mécanisme incontrôlable qui s'empare de moi. L'armée des zombies se réveille d'un même pas. Frappe l'air en même temps, frappe l'air en même temps, mes yeux. Brûlent mon corps s'oublie, le noir m'envahit. Éteinte, je me laisse plonger au pays des merveilles. Berceuse brutale, cantine létale. Je me sens Alice, je me sens à l'ouest. Moins ceci dit que d'autres qui m'entourent. Tweedledee danse, Tweedledum hurle. Il se sent grandir et ne peut s'arrêter. Mange-moi, mange-moi, tu sais pas qui te mangera.
Et voilà, c'était Throw Panda Bat avec Underground Massive. Je vous conseille d'aller faire un tour. Il y avait aussi un autre titre que j'ai failli choisir à la place de celui-ci, qui était beaucoup plus slamé, etc. Ouais, des gens motivés, militants et engagés, comme c'est souvent le cas bien dans le monde de la musique libre. La sortie 3.1 de Phrasé Annette, tout le monde, mais je vous dis bien, tout le monde, mes bons amis, l'attendait. Eh bien, fini les nuits de transpiration, angoissée. Elle est sortie, elle est là.
Et oui, Alchimie, éditeur français de logiciels, annonce la sortie de la version 3.1 de sa solution de gestion de phototech open source Phrasé Annette. Phrasé Annette est un logiciel permettant aux professionnels de l'image, services photo et communication d'entreprise, mairies, photographes indépendants, de gérer, de diffuser leurs fonds photo et multimédia en ligne à partir d'un navigateur web. Logiciel propriétaire jusqu'en mars 2010, Phrasé Annette est aujourd'hui l'une des rares solutions à avoir fait l'objet d'un passage à l'open source parmi les logiciels professionnels de gestion de contenu photo et multimédia. Phrasé Annette gère les photos, mais aussi les vidéos, les documents audio et PDF. Il est sous licence GPL V3 et téléchargeable gratuitement.
Parmi les nouveautés de cette version majeure, s'il en est, l'interface Phrasé Annette Lightbox, l'application dédiée à la validation et la consultation de documents envoyés par d'autres utilisateurs, se voit dotée de nouvelles fonctions, possibilité d'ajouter des commentaires sur un document, compatibilité de l'interface avec l'iPhone, TM et d'autres ordiphones ou smartphones, comme vous voulez. Mise en fonction d'un gestionnaire des commandes, mise en place d'une quarantaine lors de l'envoi de documents, ajout de nouvelles statistiques dans l'interface de statistiques Phrasé Annette Report. C'est une info extraite de linuxfr.org, l'excellent linuxfr.org.
On poursuit avec les enregistrements vidéo en Hog Théora Vorbis des JFL 2010.
Les quelques 40 heures de vidéo des deuxièmes journées finistériennes du Libre JFL 2010 sont maintenant disponibles au format libre et ouvert Hog Théora Vorbis, que ce soit en résolution standard ou en HD, grâce à l'ouverture par Tux Family d'un espace de 50 gigas.
C'est JFL 2010 organisé par Linux Quimper du 27 septembre au 27 novembre 2010. Auront permis de toucher plus de 1 millier de personnes grâce à une exposition, 20 conférences, 12 ateliers, 3 workshops de 12 jours et 2 installs parties.
http://www.jfl2010.fr, c'est évidemment très facile. Et puis on va serrer notre Debian très fort.
Et oui, la version Squeeze, donc Debian 6.0, est sortie.
C'est son nom de code, Squeeze. Elle sort aujourd'hui. Debian est l'une des distributions GNU Linux les plus anciennes, encore actives. Elle se veut adaptée au plus grand nombre et se nomme elle-même, ouvrez les guillemets, le système d'exploitation universel, fermez les guillemets, point. Elle est aussi réputée pour sa stabilité, notamment car elle n'est pas publiée à une date fixe, mais quand elle est prête.
Oui, cette version est disponible officiellement pour les architectures Intel x86, Spark, PowerPC, MIPS, Intel Itanium, S390, AMD64, ARM, EABI. Elle voit aussi l'introduction du port GNU KFreeBSD en tant que, ouvrez les guillemets, avant-première technologique, fermez les guillemets, point.
Rappelons que les noms des versions de Debian ont pour origine un personnage de Toy Story, Squeeze, qui est l'extraterrestre à trois yeux, figurez-vous. Ben voilà, évidemment.
Un seul lien.
C'est geek alors, hein, c'est vraiment la folie.
Un seul lien, debian.org, évidemment.
Sacha Pankratov est un artiste russe qui nous signe ce titre, Morning, extrait de l'album Kaleidoscope. C'est sur le label Pulsations for You. C'est en licence Creative Commons by NCND 2.0. Citez-le et ne faites pas de travaux dérivés ni d'utilisation commerciale sans son accord. Et pour rentrer en contact avec lui, eh bien c'est sur Dogmazic que vous retrouverez évidemment sa page et un lien direct sur le site de Divergence. Raphaël Jacquot est avec nous au téléphone. Il revient tout juste de Bruxelles où se tenait le FOSDEM, le Free and Open Source Software Developers European Meeting, les 5 et 6 février 2011, qui est le plus grand événement non commercial sur le développement open source ouvert à tous. Là où Tristan Nitto et Anthony Rico présentaient Firefox 4 pour les développeurs et les utilisateurs, les différentes dev rooms, les différents keynotes. On aurait pu vous en parler, mais non, ce sera pour ce qui s'y passait à côté, au Hackerspace de Bruxelles.
Et oui, au Hackerspace de Bruxelles, où Raphaël y était. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir.
Alors le Hackerspace, peux-tu nous décrire ce que c'est?
Le Hackerspace, en fait, c'est un lieu de rencontre pour les geeks, on va dire, et pour leurs amis. Qui permet notamment de se rencontrer, donc de partager une bière ensemble, de discuter. Et le Hackerspace est aussi équipé d'un outillage qui permet de bricoler des choses électroniques ou informatiques.
D'où le terme hacker au sens propre du terme.
Voilà, tout à fait. Donc typiquement, il y a un stock de composants non négligeable qui va de la petite mémoire de base au microprocesseur. Il y a des fers à souder, des perceuses, des fraiseuses, enfin plein de choses qui permettent de bricoler après tout et n'importe quoi.
Alors j'imagine que c'est un lieu où il y avait pas mal de monde pendant le FOSDEM du coup.
Pendant le FOSDEM, en fait, le samedi du FOSDEM était organisée une soirée musique 8 bits. Mmh. Donc il y avait un DJ avec des tas de musique 8 bits bien connues, par exemple le thème de Mario, etc. Et donc pendant toute la soirée, autour d'une bière, pendant que les gens discutent, il y avait de la musique qui est dépassée.
Tu fais référence à la Byte Night à partir du 5 février à 20h.
Voilà, donc c'était effectivement organisé en termes de off par rapport au FOSDEM.
Et le FOSDEM lui-même, qu'est-ce que tu en as pensé cette année?
En fait, le FOSDEM lui-même, soit on fait le FOSDEM et donc on va au conf, etc., soit on va dans les soirées off. Et le problème, c'est que les soirées off se terminent souvent à des heures assez matinales et on finit par ne pas pouvoir aller au conf.
Ah oui, je vois.
Donc, si j'ai bien compris, si on veut faire le FOSDEM, faut pas dormir pendant 72 heures.
Voilà, c'est un peu ça.
C'est un peu comme les rencontres mondiales des logiciels libres, puisqu'on va voir les concerts le soir, on se couche à pas d'heure, mais le matin, on se lève quand même,
c'est vrai.
Nous. Hein, et
c'est...
pour aller voir les trucs.
Que 2 heures. C'est vrai que pendant une semaine, on a dormi que 2 heures par nuit. Hein.
Oui. Voilà, c'est un peu ça, oui.
Oui, il faut voir dans quel état on a terminé.
Alors, ce qui est intéressant de regarder sur leur site, hein, carspace.be, c'est qu'effectivement, il y a des règles qui, y a, par exemple, la règle numéro 1, il n'y a pas de passagers dans ce navire, seulement des membres d'équipage. Nous sommes des explorateurs, pas des pirates. Donc déjà ça. Ensuite, par exemple, les boissons sont dans le frigo. C'est cool, c'est pas cher. Et merci à vous de rester à flotte.
À flot,
voilà.
Rester sobre. Enfin, correct.
Sobre, voilà. Respecter les membres, leur vie privée et puis leur matériel, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le partage, c'est bien. Le partage, c'est le savoir, la créativité sur le matériel et le code, etc., etc.
Est-ce que, Raphaël, tu as eu l'occasion de rencontrer, même s'il n'y a peut-être pas de manager ou de directeur de ce Hackerspace, les gens qui l'organisent ou donc qui en sont les initiateurs?
Tout à fait. En fait, mon hôte à Bruxelles est l'un des gestionnaires du Hackerspace en question. Donc, j'avais une place privilégiée pour accéder à cet endroit. Et cette personne m'a servi aussi de guide, bien sûr, pour me montrer un peu ce qui se fait à l'intérieur du Hackerspace. Mmh.
C'est ouvert à tous? Tout le monde peut venir?
C'est effectivement ouvert à tous. N'importe qui peut venir pour une soirée ou devenir membre pour le reste de l'année. C'est un peu, ça fonctionne sur le principe de l'association loi 1901 belge évidemment. Et donc les personnes cotisant peuvent utiliser les locaux à le vouloir dans le respect des règles d'utilisation.
Et c'est un lieu qui est apparu à quel moment? Ça fait plusieurs années qu'ils sont installés ou c'est relativement récent?
Ça fait effectivement quelques années qu'ils sont installés, je dirais au moins 4 ans.
D'accord.
Depuis plusieurs années, ils ont réalisé un certain nombre de choses très intéressantes à l'intérieur de leurs locaux. Notamment, ils ont installé un petit serveur en interne qu'ils utilisent pour discuter. Ils mettent aussi en place des liaisons entre les membres, des liaisons sans fil entre les membres, pour économiser sur les accès Internet, étant donné que les accès Internet en Belgique sont très loin d'être illimités, comme on dit.
Absolument.
Comme on a ici. Et donc, ils utilisent les technologies sans fil pour pouvoir justement passer outre et permettre de communiquer entre eux de manière économique. Donc ça, c'est fait sous l'égide, entre autres, du Hackerspace.
Et en termes de fréquentation, nombre de personnes, c'est une petite dizaine, 50, 60, une centaine?
En fait, ça dépend effectivement. Il y a une trentaine de membres, à ce que j'ai cru comprendre, une trentaine de membres permanents. Et par contre, lors des soirées un peu spécifiques, comme la Bike Night, bien sûr, le lieu est absolument plein et on a tendance à même se marcher sur les pieds. Mais c'est très très convivial.
Y retrouve-t-on de la gente féminine bruxelloise?
Ah, effectivement, il y avait même, par exemple, dans la Bike Night, une députée européenne qui est venue, qui a discuté pendant une grosse partie de la journée, de la soirée, de mathématiques au tableau avec une autre personne. C'est très intéressant.
Voilà, tout ça pour souligner que c'est un champ que nous étudions régulièrement, car il y a une sous-représentation assez forte de la gente féminine dans le monde des hackers, des informaticiens, etc. Même si année après année, on constate des progrès, comme dans tous les secteurs de la société, en ce qui concerne justement la conquête de l'univers par le genre féminin.
Alors, ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'ils font des rendez-vous réguliers, par exemple, tous les mercredis vendredis, etc. Donc, des rendez-vous réguliers que l'on trouve sur leur site, d'ailleurs, hackerspace.be, et puis sur l'émission, le site de l'émission, l'article de l'émission, on retrouve tout ça. Tous ces plus, or note tous ces plus, that's the question, chapitre 14, etc. Une battle mesh V4 aussi, etc.
Voilà, on peut dire que philosophiquement, ils sont assez proches des travaux de Norbert Wiener, un mathématicien qui vécut de 1894 à 1964, figurez-vous. Si vous voulez en savoir plus, voilà, hackerspace.be pour tout savoir. Oui, Pascal.
Oui, ont-ils des liens avec nos amis français, disons-nous, à Paris ou à Toulouse?
Oui, tout à fait. Ils se connaissent très bien. Ils sont en discussion entre eux, tout à fait. Et justement, tu faisais référence donc au Battle Mesh. Effectivement, c'est organisé en collaboration avec les Belges, les Catalans, les Français. Donc le tout en Catalogne d'ici un mois environ.
Et les Battle Mesh qui sont des batailles de mèches de bougies?
Non, c'est pas ça.
Non,
c'est de filets antitranspirants?
Non plus.
Non plus, c'est
non, en fait, ce sont
de protocoles de routage sur des réseaux maillés.
Ça, maillé, c'est sexy, voilà. Ça, c'est bon, ça, des batailles de protocoles de routage sur des réseaux maillés. Moi, je trouve ça super érotique.
C'est-à-dire que tu mets dans une pièce un maximum de routeurs qui vont s'interconnecter entre eux et donc faire une battle mesh.
Ah, c'est beaucoup moins érotique tout d'un coup. C'est con.
Bah, ça, les
planquiers derrière. Un peu de choses. Hein. C'est vraiment une perspective qui se décale d'un angle et on voit la vie différemment.
Ah bah, mon cher Gilles, c'est un truc de geek. Hein.
Eh oui. Bon, bah, je crois que Pascal, nous allons te laisser te remettre de toutes ces émotions en te remerciant d'avoir pris sur un temps qu'on te sait précieux pour nous parler au téléphone en direct de Grenoble dans le froid.
Oui, je suis pas si froid que ça, justement, aujourd'hui. Pas eu un grand soleil toute la journée.
Fantastique. C'était la météo de Raphaël Jacquot sur Divergence Numérique.
Une petite pause musicale avant de retrouver nos traditionnelles nouvelles, disons pas nouvelles,
agenda.
Agenda
du libre.
Du libre.
Absolument, merci beaucoup Raph. À très bientôt. C'est à présent Give Up, Do Not, un titre du Spirit Elevating Brains, une licence Creative Commons by NCND 3.0, extrait de l'album Raw Adventures of the Strident, Harsh and Sweet Returnee, figurez-vous. Et c'est chez le label Test Tube.
Avanzamos hacia un mundo en el que la esperanza de vida es cada vez mayor. Pero ¿para qué vivir más si no nos acordamos de quiénes somos?
Go.
Et oui, ce morceau, c'était un morceau assez long. Je rappelle, c'était les Spirit Elevating Brains. Allez voir sur dogmasic.net pour retrouver ces artistes qui, peut-être un jour, figureront dans l'agenda du Libre, car ils seront en concert, figurez-vous, quelque part, mais pas ces semaines-ci.
On termine avec l'agenda du Libre, agendadulibre.org pour nous francophones, agendadulibre.qc.ca pour nos Québécois, petit coucou, et puis qu'on peut parler de Belgique, agenda.be.
Voilà, près
agenda
de nous...
Agendadulibre.be, pardon.
Bah oui. La réunion mensuelle du plug, ce n'est pas érotique, ce sera à Marseille ce vendredi demain où aura lieu aussi les ateliers libres de Montpellier Libre. Ce sera à Téran pour les notions PC de 16h à 18h à la médiathèque de Téran.
Toujours un rendez-vous, en fait c'est un rendez-vous hebdomadaire. On poursuit à Pau par exemple une Ubuntu Party, donc le samedi 12 février.
Samedi 12 février, vous pourrez retrouver cette info sur l'agenda du Libre, mais sachez que ce sera à la cyberbase Pau des Pyrénées, 4 rue des Pourrins à Pau. C'est de 14 à 18h pour cette Ubuntu Party. Et puis les Toulousains pourront avoir un atelier sur Blender ou sur KDE, toujours ce 12 février. Et là, ça se passera en coopération avec l'association Tout Libre. Ça se passera à Toulouse, midi Pyrénées. Et c'est au centre culturel Bellegarde, 17 rue du même nom à Toulouse.
Alors plus proche de chez nous, à Montpellier, le 18 février de 14h30 à 18h30, à la Maison pour tous, Mélina Mercouri, un atel libre sur Gimp.
Et puis ce mardi 15 février de 14 à 16h à Castelnau-le-Lez, Montpellier Libre organisera de 14 à 16h un atelier libre à la MJC du centre André Malraux, avenue de la Moutte, ligne 35 pour ceux qui prennent le bus, arrêt Collège Basile, donc à Castelnau. Et ce sera le traditionnel atelier libre pour aborder toutes les questions qui vous préoccupent, de l'installation du système d'exploitation jusqu'à la programmation, la tech, allez savoir. Quoi d'autre ? Non, Chambéry, Charleville, tout ça c'est trop loin. Un autre atelier libre, ce sera le 18, à noter. Mais d'ici là, on reprendra bien évidemment l'antenne la semaine prochaine.
La semaine prochaine, merci de nous avoir suivis sur le 93.9 de Divergence FM, sur le 104.1 et le 103.3 de Radio Escapade.
Et il les a cités de mémoire, messieurs, mesdames. On remercie Bruno Bertrand à la réalisation technique de cette divergence numérique. Et on vous dit, je sais pas, restez libres.
Restez, soyez
libres.
Terrorist Networks. Terrorist States. Terrorist Networks. Terrorist States. Terrorist Networks. Terrorist States.